Chapitre 6. Pour Charles Fraisse, le bonheur n'était pas au rendez-vous. En temps ordinaire, son bureau de Barfield House était son refuge préféré. Mais sa future épouse l'avait malheureusement pris d'assaut. Leurs avocats devaient arriver d'ici peu pour finaliser le contrat de mariage.
« J'allume la télé !» fit Duxie. « Ça me fera passer le temps. C'est l'heure de Live the Life. Tu connais ? Une série australienne avec un surfeur hyper canon. Si tu voyais ses pectoraux ! Elle est où la télécommande ?»«
Aucune idée !» répondit Charles en remuant une liasse de papier. « Gustave l'a cachée quelque part !»
« Puisqu'on parle de Gustave, mon chéri, il va falloir trouver une solution à son sujet !»
Charles repêcha la télécommande qu'il avait lui-même fourrée sous un coussin.
« Tiens, elle est là !»«
Ah, les infos ne sont pas terminées. Je coupe le son, c'est trop déprimant. »« Regarde cette femme! Je l'ai vue au bar du Charge la première fois où on s'est rencontrés. Hé !»
Charles venait de lui piquer la télécommande pour monter le son. Il comprit qu'Agatha allait être soumise à un interrogatoire suite à l'assassinat du journaliste Terry Fletcher. Horrifié, il contempla le visage livide de son ami avant de signaler à Duxie.
« Je m'en vais, il y a une urgence. »«
Mais on a rendez-vous avec nos avocats !»«
Demande à Gustave de tout annuler pour aujourd'hui. »«
Charles, je pourrais porter plainte pour rupture de fiançailles. »
Seul lui répondit le bruit de la porte qui claquait. Tout indiquait qu'Agatha Raisin n'avait pas pu tuer Terry Fletcher. Et la déception de l'inspecteur-chef Wilkes croissait à mesure que l'épreuve s'accumulait. En effet, Agatha avait conservé la facture de son hôtel dans le Devon, ainsi que les reçus des stations-service et des restos-routes où elle s'était arrêtée pendant le trajet. Cependant, elle n'aurait pas été en plus mauvaise posture si on l'avait déclarée coupable. Convoquée en urgence, son avocat lui apprit que Mrs. Fletcher, interviewée à la télévision, l'accusait d'avoir détruit son mariage. Après ça, Agatha envisagea sérieusement de quitter définitivement les Cotswolds. Sa réputation était devenue trop sulfureuse pour que son agence n'en fasse pas les frais et son image de briseuse de ménage allait lui coller pour toujours à la peau. Elle avait fini par découvrir comment Terry s'était introduit chez elle. Le mari de Doris Simpson, qui ignorait tout de leur scandaleuse liaison, avait accepté de le faire entrer sans rien dire à Agatha, Thierry lui ayant laissé entendre qu'il préparait une surprise romantique. Tard dans la soirée, elle quitta le commissariat en compagnie de Tony. Charles l'attendait à l'extérieur. Sans un mot, il lui passa un bras autour des épaules.
« Viens, je vais te reconduire. Tony viendra te chercher demain matin. Ils n'ont pas proposé de te prêter un véhicule ?»«
Certainement pas. De toute façon, je suis obligée de descendre au Georges. Les experts ont envahi ma maison, et si je rentre, la police ne va pas arrêter de me harceler. » « Merci, Tony. Vous n'avez qu'à déposer ma valise dans le coffre. Heureusement que j'avais emporté des bagages. »
Au Georges, Agatha réserva une suite au dernier étage. Elle devinait que son séjour allait se prolonger et un peu d'espace ne serait pas superflu. Ses chats étaient sous la garde de Doris, mais la douceur de leur fourrure lui manquait tellement qu'elle envisagea de les faire venir en cachette, au mépris du règlement de l'hôtel.
« Tu peux y aller, Charles. » « C'est bizarre, mais je crois que je vais m'endormir sans problème. »«
Juste une minute, » fit Charles en arpentant nerveusement la pièce. « Tu sais si la femme de Fletcher a un alibi solide ?»«
Apparemment, oui.
Elle ne s'est pas approchée des Cotswolds, soi-disant qu'elle n'a même pas quitté Londres.
Ils avaient prévu de repartir en Australie le lendemain. »«
Agatha, je crois que c'est toi qu'on aurait assassiné si tu avais été là. » J'ai l'impression qu'une espèce de haine hystérique est à l'origine de tout ça. Et en fin de compte, tout semble nous ramener à l'évêque. Il n'arrête pas de faire du charme à ses vieilles cruches pour financer sa maison de retraite. Résultat, ces bonnes femmes sont folles de lui et elles te voient comme une rivale. À mon avis, c'est toi qui étais visé. Et Terry a pris à ta place parce qu'il se trouvait sur les lieux.
Charles, Agatha l'attrapa par la manche en chuchotant. Il y a quelqu'un derrière la porte.
D'un doigt tremblant, elle lui montra au ras du plancher la lumière qui provenait du couloir, plus vive que l'éclairage tamisé de la suite. Charles aperçut le mouvement d'une ombre sous la porte. Il s'approcha vivement et l'ouvrit d'un geste brusque.
Bonsoir, monsieur, fit Gustave.
Gustave, mais qu'est-ce que vous fichez ici?
Votre fiancé m'a parlé des nouvelles à la télévision.
Et j'en ai déduit que vous aviez rejoint Mrs. Raisin. Sachant qu'elle ne pouvait pas rentrer à son domicile, j'ai supposé qu'elle logeait au Georges. Ok, maintenant fichez le camp. Je présume que cette suite a deux chambres, et je vous ai donc apporté une valise. Si vous préférez, je peux vous reconduire chez vous.
Venez vous asseoir, Gustave, intervint Agatha. Elle devinait qu'il y avait un souci avec les finances de Charles, et n'importe quel sujet serait le bienvenu pour lui faire oublier la mort de Terry. Mais d'abord, servez-moi un brandy et ouvrez la fenêtre pour que je puisse fumer. Si ça vous dit, prenez aussi un verre.
Je vous remercie, madame. Mieux vaut laisser la fenêtre fermée. Il fait un froid inhabituel pour la saison. Et je suis passé maître dans l'art de désactiver les alarmes incendies. Montrez-moi comment vous faites, alors.
Gustave tendit ses grands bras vers le plafond et se contenta d'arracher le boîtier du détecteur qui se balança follement au bout de ses câbles.
C'est du pur vandalisme, protesta Agatha. Et c'est moi qui vais devoir payer pour les dégâts. Dans ces cas-là, j'affirme toujours qu'il s'est décroché tout seul, répliqua Gustave. Jusqu'ici, personne ne m'a jamais contredit.
Agatha avait un peu l'impression de prendre le thé avec le chapelier fou. Elle savoura, malgré tout, sa cigarette, en se disant qu'à des tarifs pareils, l'emballage aurait dû être en or massif. Charles et Gustave se servirent également un brandy et piochèrent dans ses cigarettes avant de s'installer confortablement.
« Allez-y, ne vous gênez pas !» leur lança Agatha. « Je ne voudrais surtout pas vous déranger avec une histoire de meurtre !»« En effet !»
approuva Gustave d'un ton solennel.
« Nous avons dans l'immédiat des préoccupations bien plus graves. »«
C'est-à-dire ?»«
Miss Devenham a l'intention de me renvoyer. Je lui ai dit que vous ne seriez pas d'accord et elle m'a demandé pourquoi. »
Il y eut un long silence et Gustave se pencha en fixant le plancher, ses doigts noueux refermés sur son verre de brandy.
« Bon. » Rachez le morceau maintenant. Qu'est-ce que vous lui avez répondu? Que vous n'accepteriez jamais de vous débarrasser de moi. Et pour quelle raison? Parce que nous étions amants, monsieur. Miss Devenham en a été malade. Elle s'est sauvée en catastrophe et sa voiture a percuté le vieux frêne. Au bout de l'allée, vous savez? Oh, rien de bien méchant, rassurez-vous. Sinon quelques bleus et quelques coupures. À l'hôpital de Stratford, le personnel a été très compréhensif, notamment un certain docteur Clearly. Lui-même a avoué être gay, et il a invité Miss Devenham à se montrer plus ouverte. Mais enfin, Gustave, vous avez perdu la tête. Après ça, je vais vraiment être obligé de vous virer. Je dois en conclure que mes fiançailles sont rompues. Si vous lui expliquez que j'ai menti parce que j'avais peur et que j'étais désespéré, je gage que Miss Devenham pourra le comprendre. Ce mariage lui importe énormément. Elle a beaucoup de mal à se caser. Voyez-vous, le bruit court que, dans les moments d'extase, elle dégage une odeur fort désagréable. Un peu comme du hareng avarié. C'est le garde-malade de Lady Sutcombe qui me l'a raconté. À l'entendre, Tommy Gresham n'en est pas revenu. Il a cru que le chat avait abandonné un poisson pourri sous le lit. Il en a parlé à Jimmy Talbot, qui lui assurait que le problème venait de la demoiselle. Lui-même avait failli dégoubiller, comme on dit dans son pays. Ce monsieur nous arrive de Nantucket.
Quand je pense qu'elle me jouait les vierges effarouchées, fit Charles.
Quoi qu'il en soit, tant pis pour l'odeur. J'ai absolument besoin de son argent. Je sais que tu m'as aidé, Agatha, mais ça ne suffira pas.
Écoutez, les tourtereaux, je viens de trouver un cadavre dans mon salon. Et tout ce qui vous intéresse, c'est une héritière qui empeste le hareng, mais qui a suffisamment d'argent pour qu'on passe sur son odeur. Charles étudia le visage pâle et crispé d'Agatha, puis il s'adressa calmement à son employé.
« Laissez-nous, Gustave. Vous n'aurez qu'à envoyer un avis à la presse pour dire que les fiançailles sont annulées. De toute manière, les gens ne prennent même plus la peine d'annoncer qu'ils se fiancent de nos jours. »«
Je vous l'accorde. Merci pour le brandy, Mrs. Raisin. Je voudrais simplement ajouter « Filez !»
coupa Charles. Une fois Gustave reparti, il voulut aider Agatha à se lever pour aller dormir, mais elle se mit à tanguer sur ses jambes avant de perdre connaissance. Charles l'installa dans un fauteuil et appela un médecin. Le docteur lui administra un puissant sédatif, puis Charles la déshabilla d'une main experte pour lui faire enfiler une chemise de nuit.
« C'est la première fois que je m'évanouis, » marmonna Agatha. « Je croyais que c'était juste la faute des corsets. »
Ce furent ses dernières paroles avant le lendemain. Au matin, Charles appela Tony afin qu'elle le relaye auprès d'Agatha pendant que lui-même se mettrait à la recherche de Doxy. Il sentait confusément que s'il renonçait à se marier et laissait Agatha gérer ses affaires, ce serait peut-être elle qu'il finirait par épouser. Et là, il pourrait dire adieu à leur belle amitié. Alors qu'il sortait de l'hôtel, il vit passer la limousine de l'évêque. Le doyen était au volant et Peter occupait la banquette arrière en compagnie de Doxy. Dès qu'il eut retrouvé l'emplacement de sa voiture, Charles les prit en chasse tout en se demandant ce qu'il allait bien pouvoir leur raconter. Le palais épiscopal occupait un bâtiment médiéval grandiose, mais il ne restait pas grand-chose de sa splendeur passée. Dans le vestibule imposant, de vilaines cloisons en bois délimitaient plusieurs espaces attribués à diverses organisations paroissiales, associations féminines ou familiales et autres clubs de lecture. La rénovation d'ensemble, dans un style néo-Tudor, semblait aussi artificielle que le salon de thé à l'ancienne installé dans la cour. Attenante à la bâtisse se trouvait la chapelle de Sainte-Marie qui faisait la fierté de l'évêque. C'était d'ailleurs là, plutôt qu'à l'abbaye, que se tenaient la plupart des cérémonies. Les deux vitraux du XIVe siècle étaient une splendeur, et il y avait en outre une chaire en bois de l'époque victorienne sculptée par Greenling Gibbons. Avisant la Bentley de Peter devant la porte, Charles voulut pénétrer dans la chapelle, mais le doyen l'empêcha de passer.
« Pas par là !» lui signala-t-il. « L'entrée est de l'autre côté !»
Charles, qui ne connaissait pas cette partie des bâtiments, se trouva brutalement projeté à l'intérieur d'une espèce de cellule médiévale. La porte en chêne se referma et la voix de Whitby lui parvint à travers une ouverture grillagée.
« Je vous libérerai quand vous ne risquerez plus de nous gêner. D'ici là, installez-vous dans cette charmante cellule. Autrefois, on enfermait les prêtres félons dans cette prison. « Je porterai plainte pour séquestration !»
rétorqua Charles.
« Ah oui ? Je n'aurais qu'à répondre que l'évêque et moi-même tâchions de protéger Miss Debenham d'un homosexuel qui courait après sa fortune. « Je ne suis pas homosexuel !» s'emporta Charles. « Difficile à prouver à l'époque où on vit. Vous ne croyez pas ?»
Le doyen éclata de rire avant de tourner les talons. Charles essaya d'évaluer la situation, se demandant si Whitby avait laissé la clé dans la serrure. Dans les romans d'aventure de sa jeunesse, le héros s'évadait toujours en glissant un mouchoir sous la porte, après quoi il faisait tomber la clé pour pouvoir la tirer à l'intérieur. Il constata que la clé était bien dans la serrure, mais il eut beau faire, il n'arrivait pas à la déloger. Secouant la poignée en désespoir de cause, il s'aperçut que le doyen avait tout bonnement oublié de verrouiller la porte. Il n'eut plus qu'à sortir de la cellule, et c'est alors qu'il remarqua des ballots de vieux journaux entassés contre le mur. Comme le papier était très sec, il eut l'idée d'y mettre le feu et de prendre la fuite avant que les flammes lui coupent la route. Alors qu'il remontait le couloir, talonné par un tourbillon de fumée, le doyen surgit derrière lui en vociférant.
« Mais qu'est-ce que vous avez fait ?»
Après lui avoir expédié un grand coup dans la figure, Charles poursuivit son chemin et réussit à trouver la sortie. Lorsqu'il déboucha dans la cour, ce fut pour tomber sur Peter et Doxy. La jeune femme était blottie dans les bras de l'évêque et il lui demandait, en la regardant dans les yeux,
« Sentez-vous l'ardeur de la foi ?»«
Ah oui, mon chéri !»
Une odeur de hareng pourri fit froncer les narines à l'évêque. C'en était trop pour Charles. Il ne comprenait même pas comment il avait pu envisager cette union. Il allait rentrer chez lui de ce pas et ordonner à Gustave de renvoyer tous les visiteurs. Une semaine plus tard, alors que Charles se hasardait pour la première fois à passer voir Agatha, elle avait retrouvé sa maison dans l'intervalle, Gustave lui téléphona pour l'informer du prochain mariage de Peter Salver Hinckley et de Miss Sophie Debenham. Il aurait dû s'en douter, mais sa surprise n'en fut pas moins considérable. « Cette fille doit être millionnaire !» fit Agatha en apprenant la nouvelle.
« Son père est à l'origine de First Plastico. Gustave vient de le découvrir. »
C'est-à-dire ?
Un plastique biodégradable. Les montagnes de déchets qui polluent les océans vont enfin disparaître. Cette famille est à la tête d'une véritable fortune, Aggy. Cesse de m'appeler et dire que j'ai renoncé à tout ça pour voler à ton secours. J'en pleurerai presque. Bon, parlons un peu de ces meurtres.
Une voix s'éleva derrière la clôture du jardin.
Je passe de ton côté. Si tu veux, James,
lui cria Agatha. James Lacy escalada souplement la clôture qui séparait leurs deux jardins.
« Tu devrais faire abaisser cette palissade, Agatha, » fit-il en les rejoignant à la table.
« Elle nous mange de la lumière à tous les deux. Charles, j'ai appris que votre ex-fiancée allait épouser l'évêque.
Il paraît que Peter projette une rénovation grandiose du palais épiscopal.
Avant de se lancer dans des projets, il aurait mieux fait d'attendre que le mariage ait eu lieu. Je n'ai pas pu lire le contrat qu'elle allait signer avec moi, mais je parie que les clauses étaient très strictes. Ça m'étonnerait beaucoup qu'il puisse toucher à l'argent de Sophie.
Si tu as été aussi bien renseignée, observa Agatha, qu'est-ce qui t'a laissé croire que ce mariage te sauverait de tes dettes?
Je ne sais pas trop. Je devais me croire assez malin pour réussir à piocher dans les réserves de la famille. Le père est un sale type. Il s'est attribué l'invention de ce plastique. Il donne même des conférences assommantes sur ses recherches, alors que c'est un des nerds de son labo qui a mis au point la formule.
Agatha étudia Charles plus attentivement. Rasé de frais et d'une impeccable élégance comme d'habitude. Il y avait quelque chose de vaguement oriental dans son attitude impassible. Que pouvait-il bien éprouver dans le fond? Comme s'il avait senti son regard, Charles dévisagea longuement Agatha, l'air de réfléchir à quelque chose, puis il suggéra simplement.
« Vu qu'on est samedi et qu'il est plus de 11 heures, je crois que c'est le bon moment pour un premier verre. Ne te lève pas, Agatha. James va m'aider. On va installer la desserte dans le jardin. »
Agatha posa les yeux sur son paquet de cigarettes. Autour d'elle, des tas de gens arrêtaient de fumer. Pourquoi n'en était-elle pas capable? Elle se promit de faire des efforts. Mais Charles vint gâcher ses bonnes résolutions. Tout en buvant son whisky, il lui piqua une cigarette et souffla des volutes de fumée qui flottèrent nonchalamment au milieu des rosiers. Impossible de résister! Un coup de sonnette retentit alors, et ce fut James qui alla répondre. Il revint accompagné de Bill Wong et d'Alice Peterson. Agatha réprima un soupir, se rappelant l'époque où elle était la seule femme dans la vie de Bill, même s'il ne s'agissait pas d'une relation amoureuse. Bill Wong était loin d'avoir son âge et de toute manière, ses parents décourageaient quiconque s'approchait de lui. Pourtant, il avait fini par les quitter par amour pour Alice, s'opposant à eux pour la première fois de sa vie.
« Qu'est-ce qu'il y a encore ?»«
Nous nous demandions si vous étiez au courant, » fit le jeune policier.
« Au courant de quoi ?»«
Mrs. Fletcher. »«
Bon sang ! De quoi elle se plaint encore, celle-là ? Elle s'imagine que je vais me couvrir la tête de cendres pour expier mes fautes ?»«
Mais non, voyons. » En revanche, elle a un alibi très solide pour le jour du meurtre.
Quel genre d'alibi?
Elle a demandé à une amie de récupérer ses gamins à l'école pendant qu'elle roucoulait avec un certain Jerry Milne, le meilleur ami de Terry. Ils sont repartis ensemble pour Melbourne et ils doivent se marier demain.
Et dire qu'elle m'a fait culpabiliser?
Mais j'y pense. Cet alibi ne tient pas la route. On ne fait pas des galipettes quand on est enceinte jusqu'au cou.
Par moment, fit Charles, Agatha est d'une candeur désarmante.
Peu importe ce qu'elle a fait exactement, ajouta Alice. Elle était bien avec cet homme, c'est tout ce qui compte. Et vous la croyez sur parole?
Nous avons le témoignage d'une voisine, Mrs. Josie Burns. D'après elle, ils n'ont pas tiré les rideaux et elle les a vus batifoler dans le plus simple appareil.
Ça me paraît franchement louche, dit James. Comme par hasard. Ces deux-là fournissent un alibi qui couvre largement la période du meurtre.
Vous connaissez l'heure précise du décès? D'après le contenu de son estomac, Terry Fletcher avait mangé un burger 2 heures auparavant acheté au Red Lion. Et au cours de ces 2 heures, Mrs. Burns a été témoin, je cite ses paroles, d'une véritable orgie romaine, quelque chose de répugnant.
Vous avez vu le déclin de l'Empire romain à la télé? Un péplum érotique!
C'était Roy Silver qui venait de parler, l'ancien collaborateur d'Agatha à Londres.
Roy, viens donc nous rejoindre. Qui a laissé la porte ouverte?
Ce doit être moi, avoua Bill Wong.
La toge n'a rien de très sexy, objecta Agatha. À moi, ça m'évoque surtout les profs de fac.
C'est plutôt un hommage à la culture gay, fit Roy.
Les journalistes ne sont pas là?
Ne me dis pas que tu ne lis pas les journaux. La presse a d'autres chats à fouetter, tu dois le savoir.
Mais ce patelin fait sans arrêt les gros titres. Il a même été surnommé le village de la mort. J'ai entendu dire que tout le monde s'était déplacé, y compris les Japonais et Paris Match.
Une horreur en chasse une autre. Que voulez-vous? Lui répondit James. Il n'y a que l'embarras du choix. Un massacre dans une école du Texas, le plus meurtrier de tous les temps. Une prise d'otage qui a duré toute la nuit dans un supermarché de Marseille. Un incendie criminel dans une mosquée de Belgique, avec tous les fidèles bloqués à l'intérieur.
ce qui explique le départ des journalistes. Ici, il n'avait plus grand-chose de nouveau à raconter. Agatha sentit une onde de soulagement lui parcourir le corps. Tout était réglé côté Mrs. Fletcher. Elle essaya de retrouver l'intensité merveilleuse de ses sentiments pour Terry, mais l'émotion s'était évanouie. En revanche, elle voyait s'ouvrir de nouvelles perspectives sur le mystère de son assassinat. Elle savait maintenant que Terry et sa femme étaient d'une moralité douteuse, et il n'était pas exclu que Terry ait séduit l'épouse d'un confrère. Bill, est-ce qu'il vous paraît possible que Mrs. Fletcher ait payé quelqu'un pour éliminer son mari? C'est une hypothèse que nous avons envisagée, mais apparemment, elle n'avait pas les contacts nécessaires pour ce genre de choses. Je me demande si l'évêque m'invitera à son mariage, fit Agatha songeuse.
Je l'ai vu en photo, et il est superbe, rebondit Roy Silver. Agatha, il faut absolument que tu me le présentes.
Agatha poussa un soupir. Étant donné que Mrs. Fletcher se marie demain, je vais être débarrassée de l'étiquette briseuse de ménage. En d'autres termes, je ne suis plus obligée de mettre ma maison en vente. Et pour répondre à ta demande, Roy, je crois deviner où on peut trouver notre évêque ce soir.
Sois prudente, lui conseilla Charles. Le doyen est une brute. J'ai failli me casser le petit doigt en lui envoyant mon poing dans le nez. En fait, je préfère t'accompagner.
Je propose de commencer par le restaurant grec, déclara Agatha. Le soir venu, Agatha examina en détail la tenue de Roy, qui s'était habillé pour sortir. Veste bleu ciel à manches trois quarts, chemise rose et jean troué au genou. Ça te donne un côté rétro, je trouve. Si tu mettais un costume ordinaire et que tu enlevais tout ce gel, je suis sûre que tu ferais plus jeune.
Je savais bien que ça t'arriverait un jour, s'exclama Roy. Tu as pris la mentalité campagne. Je parie que la prochaine fois, je te retrouverai en culotte de tweed. Allez, on est parti. Je meurs de faim. Il est comment ce resto?
Ignoble. Pourquoi tu l'as choisi si c'est ça? Parce que tu n'as dû que pour l'évêque et que moi j'ai une enquête à mener. La journée avait été radieuse, mais la fraîcheur et la brune s'étaient installées vers le soir.
J'ai le droit de casser des assiettes, plaisanta Roy, en entendant Zorba le grec sortir des haut-parleurs.
Le restaurant était quasiment vide. Il n'y avait que deux hommes installés à une table. Agatha reconnut le serveur de Glasgow.
« Tiens, je vois qu'on en demande !» fit-il en s'approchant d'eux.
« Qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Apportez les menus, ça le ferait bien !»
répliqua Roy sur le ton du « Je maîtrise bien l'échange viril. »
« Il est marqué sur l'ardoise, le menu. Un conseil, prenez les feuilles de vigne farcies. C'est du chou et pas de la vigne, mais la garniture est fraîche. »
Agatha proposa de s'en tenir au vin et au pain aillé et d'aller dîner ensuite dans un restaurant correct. « L'évêque a prévu de venir ce soir ? » demanda-t-elle au serveur.
« Oh que oui ! Il va se pointer avec ses vieilles peaux et il essaiera de leur taper des thunes. Il récolte de l'argent pour les vieux. »
« Et il doit arriver à quelle heure ? »
« 9 heures. » « Un peu tard pour des personnes âgées, » commenta Charles. « À ce que dit le doyen, l'évêque est pas libre avant pour venir ramasser le fric. »
« C'est quand même bizarre, » reprit Agatha, « que cette maison de retraite lui tienne tellement à cœur. Honnêtement, je ne lui vois pas la fibre charitable. Maintenant que j'y pense, on ne s'est même pas renseigné sur les circonstances de son adoption. »«
Moi, je suis au courant, » fit Charles. « Lady Fazering m'en a parlé l'année dernière. Il se trouve que Molly Hepworth, sa meilleure amie, est tombée enceinte après une fête un peu déjantée. Comme ses parents s'opposaient à l'avortement, elle a dû garder l'enfant. Et justement, Lady Fazering rêvait d'en avoir un. Son mari, Henry, était contre l'adoption. Mais vu qu'il n'était pas fichu de lui faire un gamin, il a été obligé de la boucler. Ce qui ne l'empêchait pas de détester Peter.
Je n'arrête pas de penser à ce policier assassiné. À part l'évêque, je ne vois personne qui ait eu intérêt à se débarrasser de lui. Je suis sûre que Larry comptait vendre des histoires gratinées sur les pasteurs sadomaso.
« Je ne supporte pas le doyen, » dit Charles. « C'est une véritable brute. Tiens, regardez qui je vois. »
Un petit cortège venait d'entrer dans la salle. Peter et Duxy Devenham en tête. Venaient ensuite le doyen, Mavis Dupin qui fusillait Duxy du regard, et 4 autres personnes, un homme et 3 femmes. Après avoir glissé quelques mots à sa fiancée, l'évêque s'approcha de la table d'Agatha et la gratifia d'un baise-main en la regardant droit dans les yeux.
« Présente-le-moi »
souffla Roy Silver. Agatha se chargea donc des présentations et Roy en fit des tonnes.
« La couleur pourpre vous va à merveille, c'est très flatteur !»«
Comme vous alors ?» lui retourna Peter. « Vous êtes détective, vous aussi ?»«
Pas du tout !» corrigea Agatha.
« Il travaille dans les relations publiques. »«
Tu sais, ma chérie, je peux m'expliquer tout seul !»
protesta Roy.
« Ça tombe un peu mieux !» se réjouit l'évêque.
« Je collecte des fonds pour une maison de retraite et nous n'avons jamais bénéficié d'une publicité suffisante. »
« J'ai des tas d'idées à vous proposer !»
s'empressa de répondre Roy.
« Formidable! Si Agatha veut bien nous excuser. »
« Roy a de quelconques compétences ?» demanda Charles.
« On dirait toujours qu'il cherche à te piquer des idées. »«
Oh, il raffole de toute cette daube. Il se sent comme un poisson dans l'eau. Il n'y a que moi qui suis heureuse d'avoir quitté le métier. »«
Fais bien attention. L'évêque vient de se retourner et je crois qu'il t'observe. » »«
Grand bien lui fasse. D'un autre côté, tout ça peut nous ramener à la disparition de Jennifer. »
Ah, voici le porte-flingue en chef, le doyen.
Vous voulez bien dégager ?
Lança Charles.
Trop aimable,
répliqua calmement Whitby.
Qui est ce type boutonneux qui discute avec Peter ?
Si vous tenez à le savoir, donnez-moi une info en échange.
Où est passée Jennifer Toynbee ? Je jure devant Dieu que je n'en sais rien. Elle s'est volatilisée du jour au lendemain, après un dîner au palais épiscopal. Elle était placée à côté de ce prédicateur, qui ressemble à Billy Graham.
Je crois savoir, fit Agatha, que la police a immédiatement lancé des recherches dans tout le pays. Pour quelle raison ?
Parce qu'elle n'avait pas emporté ses affaires, ses vêtements, ses clés, ses papiers et son portefeuille, tout était là. Sa mère a reçu un dernier texto qui disait « Je quitte ce monde ».
Je crois que je vais devoir ramasser les morceaux à la petite cuillère, dit Agatha, dès que Whitby se fut éloigné.
Les morceaux de qui ?
De Doxy. Peu importe sa fortune, personne ne supporterait son odeur de poisson pourri.
Ne t'inquiète pas. L'évêque n'a pas l'air très entreprenant pour l'instant. L'odeur ne s'accentue que dans les moments d'extase.
Pendant ce temps, Doxy disait à Peter.
Tu veux bien oublier Mr. Gay Pride et t'occuper un peu de moi ?
L'évêque glissa une main sous la nappe à carreaux pour caresser la cuisse de la jeune femme. Alors qu'elle se tortillait sur sa chaise, les yeux fermés, il appela le serveur.
Il y a un poisson pourri sous la table. Dépêchez-vous de nettoyer ça. Attendez, on va plutôt changer de table.
Je peux vous dire un petit mot en privé, éminence ?
Demanda le serveur.
C'est si urgent que ça ?
Bon, d'accord.
Le serveur va lui révéler l'origine de l'odeur,
supposa Charles.
Tu plaisantes ?
Non, malheureusement. D'après Gustave, cette chère Doxy a tendance à coucher à droite et à gauche. Au début, je n'ai pas voulu y croire.
Mais regarde un peu notre évêque, il a perdu ses couleurs.
L'argent, mon vieux. Pensez à l'argent. Ah, ça y est, je crois qu'il a réfléchi. Il fait un grand sourire à sa dulcinée. Sauf que Doxy n'a plus le sourire.
Quelqu'un lui a fait apporter un message, précisa Agatha. Et ce qu'elle a lu l'a visiblement mise en rogne. D'ailleurs, la voilà qui se lève.
Peter la supplia d'abord de rester, puis il finit par s'énerver. Ses paroles durent pousser Doxy à bout car elle lui envoya une gifle magistrale qui laissa une marque bien visible sur sa figure livide. Le doyen la saisit fermement par le bras pour la reconduire à la sortie.
« Mon Dieu !»
fit Charles.
« J'ai bien peur qu'il aille la boucler dans la cellule où il m'a enfermé. »
On entendit alors retentir un coup de feu devant la porte, suivi d'un cri et d'un bruit de galopade. Agatha fut la première à se précipiter dehors. Donald Whitby gisait à terre, les mains plaquées sur le ventre. Du sang s'écoulait entre ses doigts. Tandis que Peter s'agenouillait près du doyen, soutenant sa tête de la main, Agatha se chargea d'appeler la police et les secours.
« Cette salope va me le payer !»
menaça Peter.
« Ne bougez pas !»
Le doyen fut transporté à l'hôpital et la police établit un cordon de sécurité devant le restaurant. Ce ne fut qu'à ce moment-là qu'on remarqua la disparition de l'évêque.
« Il n'est pas monté dans l'ambulance, » signala Agatha.
« Il est en train d'inspecter le palais épiscopal, »
intervint Roy en regardant les journalistes qui se pressaient derrière le ruban. Les recherches eurent beau se poursuivre toute la nuit, on ne trouva aucune trace de Doxy. La traque s'élargit au port et aux aéroports sans résultat. Comme Jennifer, Doxy s'était évaporée en laissant ses papiers derrière elle.
Si elle empeste comme on le prétend, plaisanta Agatha, ça aurait dû mettre les limiers sur sa piste.
Et comment ?
Fit Charles.
Elle n'a même pas besoin d'atteindre l'orgasme en fin de compte. Il suffit qu'on la flatte un peu pour qu'une odeur atroce empoisonne l'atmosphère. Un peu comme du hareng pourri.
C'est sa manière de noyer le poisson,
conclut Roy en éclatant de rire, enchanté par sa propre blague. Profitant d'un moment d'inattention de la police, il se faufila sous le cordon de sécurité et engagea la conversation avec les reporters.
Tu sais où est Peter ?
Demanda Charles. La police l'a emmené. Je crois qu'on ferait bien de se bouger. On ne coupera pas à l'interrogatoire, mais dans un premier temps, Alice va prendre nos dépositions. Comme ça, on pourra attendre demain pour signer les papiers au commissariat. La voici justement. Alice, vous voulez bien qu'on s'installe à l'intérieur ? On pourra s'asseoir et commander un verre.
Alice donna son accord et le serveur vint les trouver.
Ça vous branche toujours les feuilles de vigne ?
Pourquoi pas ? Répondit Agatha.
Apportez-nous aussi du vin et une bouteille de Merlot. Dis-moi, Charles, tu savais que Doxy se promenait armé ?
Bien sûr que non. On est en Angleterre, je te rappelle.
C'est répugnant ce que les hommes sont prêts à faire pour de l'argent.
Sur ces entrefaites, Roy accourut en larmes. Ses boutons rouges se détachaient sur la peau blême de son visage et Agatha eut brièvement l'envie farfelue de sortir un crayon pour jouer à relier les petits points.
Qu'est-ce qui t'arrive, Roy ?
J'étais en train de parler à la presse et un policier m'a ordonné de venir me rejoindre. J'ai cru bien faire en lui répondant « Un instant, mon brave !» Mais il m'a écrasé le pied. Je crois même qu'il m'a cassé un os. Et tu sais ce qu'il m'a dit ? Obéis et boucle la pédale !
En entendant cela, Alice les pria de l'excuser et s'éclipsa une minute. Elle revint accompagnée d'un officier au physique de brute qu'elle obligea à s'excuser humblement auprès de Roy. Celui-ci, qui n'avait plus du tout mal et se réjouissait de monopoliser l'attention, décida de se montrer magnanime et il fallut qu'Alice réclame fermement leur déposition pour qu'il accepte de fermer son bec. En fait de feuilles de vigne, on leur servit du chou garni de riz gluant, si bien qu'Agatha paya le serveur pour qu'il leur rapporte des sandwichs du Marks & Spencer le plus proche. Alice procédait de façon calme et méthodique, mais l'esprit d'Agatha bouillonnait de questions sans réponse. Pourquoi donc Doxy se baladait-elle avec une arme d'abord ? Le serveur revint bientôt avec un assortiment de sandwichs. Furieuse, Agatha constata qu'il avait gardé un des meilleurs pour lui et qu'en plus, il comptait s'incruster à leur table. Charles, pour sa part, semblait plutôt amusé.
Comme on disait à l'époque victorienne, chacun doit rester à sa place, mon brave.
Et Agatha de renchérir. Moi, je dirais plutôt casse-toi, bouffeur de haggis.
Dommage pour vous.
Parce que je viens juste de piger ce qu'il a fait puer comme ça.
Bien, on se retrouve demain matin au commissariat. Fit Alice. Je vais taper vos dépositions, il ne vous restera qu'à les signer.
Agatha reporta son attention sur le serveur.
Qu'est-ce que vous venez de comprendre ? Je pensais que l'odeur était liée à l'excitation sexuelle.
Ben non, c'est la peur qui lui provoque ça.
Un peu comme une moufette,
fit Charles.
Si on veut, ouais. Ce que je peux vous dire, c'est que ça vient de la vodka, cette odeur. Un vrai poison, ce truc. Chez les gens qui picolent sec, ça arrive qu'elles ressortent par la peau. Et là, ça chlingue grave. Si jamais ils transpirent parce qu'ils ont la trouille, ça sent comme du hareng pourri.
Il tenta de piquer un deuxième sandwich, mais Agatha lui donna une tape sur la main.
Si je comprends bien, résuma Charles, c'était les relations intimes en elles-mêmes qui l'effrayaient. Dans ces conditions, c'est curieux qu'elle ait voulu se marier. Elles sont comme ça, les lesbiennes. Il y en a qui préfèrent se planquer.
À notre époque, s'étonna Roy, je trouve ça très étrange.
Si elle cherchait seulement quelqu'un pour sauver les apparences, fit Charles, elle aurait dû m'en parler franchement, j'aurais sauté sur l'occasion.
Tu peux toujours rêver, le rabroua Agatha. À mon avis, le contrat de mariage t'aurait laissé sur la paille. Bon, retournons à notre affaire. Une héritière a déjà disparu. Et maintenant, c'est le tour de Doxy. Voyons leurs points communs. Pour commencer, elles ont toutes les deux été fiancées à Peter. Et le doyen de l'évêque est une brute. Ça explique peut-être que Doxy ait porté une arme.
Charles étouffa un bâillement.
On ne trouvera rien de plus ce soir.
Il se tourna vers le serveur.
On dirait que ce vin a été mis en bouteille avant-hier. Vous le fabriquez dans votre baignoire ou quoi ? Ah, laissez tomber, je ne veux même pas savoir.
Au grand soulagement d'Agatha, Roy avait décidé de repartir à Londres et Charles était rentré directement chez lui. Elle avait pris une douche avant de se coucher, mais elle renifla tout de même son bras avec méfiance. Est-ce que le jean laissait vraiment une odeur? Cette pauvre Doxy. Elle ne soupçonnait même pas qu'il y avait un problème. Les hommes ne lui disaient jamais rien, ils se contentaient de la larguer. Était-il bien vrai qu'elle préférait les femmes? Les hommes étaient toujours prêts à sortir cet argument pour justifier leur déboire. Assise sur le sol de la cuisine avec ses chats sur les genoux, elle se demanda pourquoi elle n'était pas capable de se suffire à elle-même. Il fallait toujours qu'elle cherche un nouvel homme pour combler son vide affectif. Son mobile se mit à sonner et le numéro de Julian Brody s'afficha à l'écran. Agatha aurait préféré monter se coucher, mais elle prit tout de même la communication.
« Je suis devant chez vous », l'informa Julian. « Je vous demande juste de m'accorder 5 minutes. »
Agatha reposa les chats sur le carrelage avant d'aller répondre. Quand elle ouvrit la porte, elle fut frappée par le charme de Julian. « Entrez donc, je sors d'une soirée mouvementée. » « En effet, j'ai entendu raconter toutes sortes de choses. Que s'est-il passé en définitive ?» Agatha lui fit un résumé des derniers événements, sans oublier de mentionner l'odeur corporelle de Doxy. « Ce n'est pas possible, » fit Julian. Il l'avait suivi à la cuisine et s'était assis à la table, les deux chats blottis sur ses genoux. « Si tout le monde boit de la vodka, c'est précisément parce que ça ne sent rien. Pourtant, j'ai connu quelqu'un qui avait ce problème, je viens de me le rappeler. Malgré tout, il faut en avaler des litres pour que ça se manifeste. » Elle étouffa un bâillement.
« Excusez-moi, je suis épuisée. »
« Je ne comprends rien aux femmes. » se plaignit Julian. Hélène refuse de quitter son mari. C'est peut-être un peu cliché, mais il y a des femmes qui ont peur de sauter le pas. À moins qu'Hélène n'aime pas le sexe, allez savoir. Quand j'étais jeune, je logeais dans un coin pourri de l'East End. Là-bas, les filles étaient plutôt délurées, mais tout changeait après le premier marmot. Quand une femme disait que son mari lui fichait la paix, les autres l'enviaient énormément. Parce que dans le cas contraire, c'était un nouveau braillard qui pointait son nez. Elle n'avait pas recours au contraceptif? À partir du moment où le mari veut des gamins, il tabasse sa femme si elle prend la pilule. Et en plus, il refuse les préservatifs, soi-disant que c'est comme garder ses chaussettes au lit.
Vous avez espoir de trouver quelque chose sur Peter?
Je pense que c'est son emprise qui éloigne Hélène de moi.
Je suis navrée de vous dire ça, mais je crois qu'Hélène est une martyre professionnelle. Elle ne quittera jamais son mari, mais ça lui plaît bien de vous tenir le bec dans l'eau. Vous feriez mieux de l'ignorer. Je suis sûre qu'elle essaie de vous reprendre dans ses filets. Pour en revenir à Peter, vous souhaitez que j'abandonne l'enquête?
Non, je vous laisse encore quelques semaines.
Ah, et il y a autre chose que vous pouvez faire pour moi. M'accompagner 2 ou 3 fois à des soirées auxquelles Hélène doit assister. Vous ferez semblant d'être tombée sous mon charme. Si j'arrive à éveiller sa jalousie, tout espoir n'est pas perdu.
Agatha s'apprêtait à refuser quand une idée lui traversa l'esprit. C'était peut-être l'occasion de rendre Charles jaloux, et ça valait la peine de le tenter, à condition qu'il soit lui aussi sur les lieux, bien entendu.
« Je vous propose le bal de charité à Barfield House, » fit Julian.
« La résidence de Charles ?»«
Sœur Fraisse, tout à fait. Chaque année, il organise une soirée pour promouvoir l'aide aux personnes handicapées. Plus précisément, il prête sa maison à l'association. Lui-même n'assiste pas à l'événement. »
S'il sait que je suis là, il viendra peut-être. C'est prévu pour quelle date?
Demain soir?
Mince, je n'ai pas de robe de soirée.
Peu importe, vous ne passez pas dans une émission de variété. Une jupe longue et un chemisier feront très bien l'affaire.
Une fois couchée, Agatha sentit tout son bon sens l'abandonner. Elle se rêvait déjà en Cendrillon comme une gamine de 15 ans. Familière de Barfield House, elle savait qu'on accédait à la salle de réception par un escalier monumental. Et elle s'imaginait déjà au bras de Julian, vêtue d'une robe en mousseline claire et vaporeuse, dont les semis de paillettes brillaient sous les lampes. Elle et Charles annonceraient ensuite leur fiançailles, et Julian, amoureux pour de bon, ferait son possible pour retenir ses larmes. Un merveilleux souvenir lui revint en mémoire. Elle avait 16 ans, et elle s'était offert une place debout pour Eugène Onegin. Une troupe du Covent Garden Opera faisait une tournée et Agatha avait contemplé bouche bée le magnifique tourbillon coloré des danseurs qui évoluait sur scène au rythme fougueux de la célèbre polonaise de Tchaïkovski. Cependant, elle n'avait pas oublié la lugubre conclusion de la soirée quand il avait fallu quitter toute cette beauté pour retrouver le taudis où logeait sa famille, avec son bruit et sa crasse, son escalier jonché d'ordures et son ascenseur hors service. Penser que l'opéra n'était pas pour elle l'avait remplie de tristesse et de colère. Mais Agatha s'était endurcie avec les années et elle avait découvert qu'à force de persévérance, elle pouvait obtenir ce qu'elle désirait. Mais elle avait en même temps perdu son innocence ainsi que sa sensibilité aux belles choses. En revanche, elle restait très douée pour les rêveries de midinette. Elle s'endormit le sourire aux lèvres en sachant que l'enfant qu'elle avait été vivait toujours en elle, protégée par ses ridicules chimères. Le lendemain, Agatha envoya un mail à Charles pour lui annoncer qu'elle viendrait au bal, mais elle n'obtint pas de réponse et Gustave avait déjà refusé de transmettre ses messages téléphoniques. En consultant de vieux numéros de Cotswold Life, elle s'aperçut que les robes du bal annuel n'avaient rien de somptueux. Tant pis pour les beaux rêves, elle allait se contenter d'une jupe en velours et d'un chemisier en mousseline de soie. Elle se mit à pester, prenant ses deux chats à témoin. « Mais qu'est-ce qui m'a pris d'accepter l'invitation ?» Hodge et Boswell, affichant toute leur féline indifférence, s'esquivèrent dans le jardin. Au moment de se préparer pour le bal, Agatha finit par réaliser à quel point elle négligeait l'enquête que lui avait confiée Julianne. Elle commençait à se dire que d'une manière ou d'une autre, la disparition de Jennifer devait avoir un lien avec la mort de Larry et l'assassinat de Millicent. Et le tueur n'était autre que l'évêque, elle en avait la conviction, à moins qu'il ait laissé le sale boulot au doyen. Il se pouvait bien que Jennifer soit tombée sur des informations compromettantes et qu'elle ait été obligée de prendre la fuite. Larry, de son côté, avait découvert l'histoire des jeux sexuels et il allait de soi que Peter, qui avait lancé l'idée, redoutait les conséquences des révélations de la presse. Agatha n'avait pas non plus interrogé Lawrence Crowther, le fermier qu'avait fréquenté Jennifer. Maintenant, elle comprenait mieux ce que signifiait l'expression « flèche de Cupidon ». L'amour pouvait vous frapper comme un accès de folie ? Lorsque la sonnette retentit, elle se repoudra le visage avant d'aller accueillir Julianne. Il était superbe dans sa tenue de soirée et elle espérait bien que Charles serait présent et qu'il arriverait avant Helen Toms. Dès que celle-ci apparaîtrait, tout le monde verrait bien que Julianne n'avait Dieu que pour elle. Elle accepta ses compliments avec une complaisance inhabituelle, gardant à l'esprit qu'il était son client. Cela valait bien un numéro de charme. Et puis, un homme qui s'entichait d'une cruche comme Helen Toms n'avait rien d'intimidant. La pluie avait cessé, et un parfum de feuillage et de rose embaumait l'air du soir. En entendant les échos de la musique provenant de Barfield House, Agatha songea qu'il serait peut-être là, à l'attendre, cet homme mystérieux qu'elle avait cru trouver en Terry. Ce pauvre Terry, qui avait pu le tuer? Et pour quelle raison? Cela faisait des jours que ces questions tournaient dans sa tête. Mais un détail qu'elle n'avait pas pris en compte la frappa tout à coup. Terry était réputé pour la qualité de son travail et pour sa remarquable intuition. Elle se promit de retourner à Cirque Magna dès le lendemain matin et de questionner un maximum de gens afin de savoir s'il avait parlé à quelqu'un et livré le début d'un indice. Et le photographe qui faisait équipe avec lui, ça valait peut-être la peine de le contacter. La voix du majordome la rappela à la réalité. Toutes ses réflexions l'avaient distraite et c'était maintenant son tour d'entrer dans la salle de réception. Charles n'était pas en vue, mais Julianne avait déjà repéré Helen Toms. Agatha, je me demandais si... Allez-y! Continuez à vous ridiculiser. Moi, je pars à la recherche de Charles. Un bruyant morceau de disco venait de s'achever et Agatha traversait la piste lorsqu'elle fut interceptée par une jeune femme trapue, affublée d'une robe blanche chiffonnée et de chaussures de baseball. Elle se rapprocha d'elle en lançant d'une voix tonnante. « Je suis Felicity Durne et vous, vous êtes Agatha Raisin, la détective !» Elle aurait mieux fait de se raser, se dit Agatha en remarquant sa moustache décolorée. « C'est bien moi et après ?»
« Je comptais vous proposer d'adhérer à notre groupe Féminisme Vivant. Et voilà que vous avez des talons aiguilles. Mon Dieu, à votre âge, vous faites honte à notre cause. Vous avez un argument pour votre défense ?»
Brusquement, Agatha se sentit submergée par une vague de colère. Contre la bêtise du monde en général,
et contre cette femme en particulier.
Va te faire foutre, espèce de mocheté!
Un solide direct en plein nez salua sa réplique. Avec un cri de douleur, Agatha balança des coups de pied dans les chevilles de Felicity, puis raflant un verre de vin rouge sur le plateau d'un serveur, elle le renversa dans son décolleté. Pendant ce temps, Charles bouquinait tranquillement en pantoufles, bien à l'abri dans son bureau et les pieds sur un tabouret. Sa tante apparut tout à coup visiblement gênée.
« Dépêche-toi de venir, mon chéri. La mère Raisin fait du grabuge dans la salle de réception. »
« Gustave ou le traiteur n'a qu'à s'en occuper. »«
Je ne crois pas, mon chéri. Cet horrible Raisin et Felicity Durne sont en train de se bagarrer sous les acclamations du public. »«
Eh merde, c'est bon, tantine, je m'en charge. »
Jouant des coudes au milieu des curieux, Charles saisit Agatha comme un paquet et la hissa sur son épaule, tandis que Felicity braillait de rage, étendue sur le parquet. Il sortit en hâte de la salle et alla déposer Agatha sur le sol de son bureau.
« Remets-toi, Felicity est une conne. Elle est complètement perchée. Et tu es bien la seule à écouter ce qu'elle raconte. Elle t'a insultée, je suppose. Il faut toujours qu'elle agresse quelqu'un. Sers-toi un verre si ça te fait plaisir. Et ensuite, tu vas raconter à oncle Charles ce qui t'a amené ici. Ce genre de raout, ce n'est vraiment pas ton style. »
Installée devant la cheminée avec un gin tonique, Agatha inventa des prétextes pour justifier sa venue. Elle n'allait quand même pas lui avouer qu'elle cherchait à éveiller sa jalousie.
« Il y a des gens ici que je souhaitais observer. D'après Julianne, l'évêque doit assister au bal. Enfin, Charles, tu n'es pas fichu d'empêcher cette tordue d'agresser tes invités ?»«
Il se trouve qu'à part toi, personne ne lui a jamais prêté attention. Allez, viens, on va danser !»
Et que ce soit bien clair entre nous, je ne suis pas jaloux. Si tu cherchais un cavalier, tu n'aurais pas dû choisir un niais qui soupire après cette gourde de femme de pasteur. Pour en revenir à l'évêque, je me demande bien pourquoi il est aussi motivé par cette maison de retraite.
À mon avis, c'est un secteur qui rapporte pas mal de nos jours. La pension peut coûter jusqu'à 1500 livres la semaine. Et si Peter se débrouille pour embobiner une de ses vieilles toupies, il se pourrait même qu'elle lui lègue sa fortune.
Je crois que tu connais sa mère adoptive.
Oui, je l'ai rencontrée une fois dans le sud de la France. Lady Fazering, fille aînée du comte de Hatcher.
Tu peux me la décrire?
Tapageuse et pas commode. En jugée par son long fume-cigarette, elle a vu trop de pièces de Noël Coward.
Et son mari?
Harold Bissett. Il était propriétaire d'une chaîne de boucherie qu'il a pu revendre avant que les supermarchés aient appâté trop de clients. Très snob, se faisait passer pour un ancien militaire. Quand Lady Fazering l'a épousé, l'adoption était déjà décidée.
Tu connais les origines de Peter?
C'est le fils de la meilleure amie de Lady Fazering, je te l'ai déjà raconté.
J'aurais dû creuser un peu plus, je me laisse aller. Tu te rends compte? Je n'ai même pas interrogé le photographe de Terry.
Ça ne m'étonne pas. Tu as trop peur de découvrir que tu n'étais qu'une aventure pour le grand amour de ta vie.
Deux grosses larmes se mirent à rouler sur les joues d'Agatha.
« Non !» protesta Charles. « Viens, on va danser. Je refuse de te voir te morfondre. »
Tout en entraînant Agatha sur la piste, Charles se dit qu'elle n'était pas la seule à avoir oublié le principal. On avait assassiné Larry Jensen, puis Millicent Dupin et Terry Fletcher, et ce dernier avait trouvé la mort dans la maison d'Agatha. Il ferait peut-être bien d'y réfléchir.
« Et voici l'évêque et son doyen, »
annonça-t-il en jetant un coup d'œil par-dessus l'épaule d'Agatha.
« Le tueur et son sbire, on dirait qu'ils cherchent à se faire discret. Va savoir ce qu'ils mijotent. »
« Je suppose qu'ils ont enterré Doxy au même endroit que Jennifer. Avec son odeur épouvantable, les chiens policiers ne vont pas tarder à trouver le corps. Apparemment, ses parents ont attendu 3 jours avant de signaler sa disparition. »
Chacun y va de son hypothèse à propos de son « odeur corporelle », comme dirait ma tante. Elle m'a parlé d'une pub pour un déodorant qui existait dans sa jeunesse. Sur la photo, on voyait une personne qui chuchotait à l'oreille d'une autre « Ton odeur est gênante ». Et le slogan disait « Odeur corporelle, même votre meilleur ami ne vous préviendra pas ». J'avoue que cette histoire m'a laissé un peu perplexe. Concernant Doxy,
Gustave se serait raccroché à n'importe quoi pour empêcher le mariage. Le doyen pense que l'odeur est liée au sexe. Le serveur du resto affirme qu'elle vient de la vodka, mais moi, j'ai une explication toute simple.
Ah oui? Qu'est-ce que tu as découvert? Que tu t'étais fait embrouiller par une femme poisson?
Mais non! Elle raffole du poisson fumé, c'est tout! Je l'ai vu manger deux harengs au petit déjeuner, et du haddock au dîner, avec du lait et trois œufs pochés.
Tu en es bien certain? Le monde est plein de naïfs qui s'imaginent que la vodka n'a pas d'odeur.
Bien entendu, ils ne pensent qu'à l'odeur de l'alcool. Ils ne se rendent pas compte que s'ils sont vraiment imbibés, ils commencent à empester leur amour. Quoi qu'il en soit, Doxy reste introuvable. Je suis sûr que cet infâme doyen les a liquidés toutes les deux.
Liquidés? Tu n'as pas peur des mots, toi?
Oh! Il passe Hello Dolly. Il faut absolument qu'on danse.
Ils se lancèrent aussitôt dans un foxtrot et Agatha se mit à chanter de tout son cœur avec la musique.
Arrête de te donner un spectacle, lui dit Charles. J'en ai le rouge aux joues.
Désolée, fit Agatha qui venait de remarquer les regards amusés des autres couples. Dans ma jeunesse, j'ai vu Streisand chanter ce morceau. À l'époque, je rêvais d'être Barbara Streisand, ou plutôt je rêvais d'être Dolly.
Oups, je sens comme une menace dans l'air.
Jetant un regard alentour, Agatha s'aperçut que l'évêque avait invité Hélène Toms à danser. Elle le fixait d'un air fasciné pendant que Julian, adossé à un pilier de la salle, les observait d'un œil jaloux.
Ça me rappelle les peintures victoriennes dans lesquelles il y a toujours une histoire à décoder, fit remarquer Charles. Est-ce que notre évêque te fait frémir, Aggie?
Frémir de peur, si tu veux savoir. Je suis prête à jurer que c'est un assassin et j'ai bien l'intention de le prouver.
Le voici qui approche.
Mrs. Raisin, Agatha, vous m'accorderez bien la prochaine danse?
Si vous voulez,
concéda Agatha sans cacher son manque d'enthousiasme. Cependant, elle ne passa pas un mauvais moment. Peter était un excellent danseur et sa tenue de soirée lui allait à merveille. Elle attaqua tout de même.
Alors, vous avez une nouvelle victime au tableau?
Un véritable barbe bleue, répondit l'évêque. J'en serai bientôt à ma 40e vierge.
Vous avez des nouvelles de Doxy?
Pas la moindre. Elle s'est évaporée, si je puis dire. Mais elle n'a pas pu quitter le pays, on a retrouvé son passeport.
Je parie qu'on la dénichera bientôt au fond d'une crypte.
Agatha, quel esprit macabre! Lorsqu'il l'attira contre lui, elle sentit de nouveau les ondes de sensualité qu'il semblait capable de diffuser à volonté.
Agatha recula juste à temps. Un gros vase en porcelaine venait de voltiger à travers la salle, frôlant sa tête au passage.
L'orchestre s'arrêta de jouer et un silence choqué s'installa, rompu par l'attente de Charles.
C'était l'oncle Arthur qui l'avait rapporté de Hong Kong, gémit-elle.
Ne t'inquiète pas, ce n'était pas un Ming, la rassura Charles. Tout va bien, Agatha?
C'est moi qui ai été visée. Tu sais qui est là-haut?
Avant que Charles ait pu l'arrêter, elle se rua dans l'escalier pour monter dans la galerie qui surplombait la salle de bal. Charles s'élança aussitôt derrière elle, mais il avait eu le temps de surprendre une lueur amusée dans le regard de l'évêque. Quand il arriva sur la galerie, Agatha n'était plus là.